Bonjour.
Bonjour. Voilà, donc, je m'appelle Meyer Denis, hein. Je suis d'une grande lignée de vignerons depuis 11 générations. Et maintenant, c'est mes filles qui ont repris l'entreprise. Donc, il y a 3 filles sur l'entreprise. Moi, je suis retraité depuis 4 ans. Retraité sur le papier, bien sûr. Autrement, on reste dans nos vignes et dans ma cave, hein, pour toujours continuer à aider mes filles, quoi.
Donc, on voit bien en Alsace que les traditions perdurent et les vignobles bon, se suivent enfin, en termes de succession. Il y a des familles qui restent vraiment marquées. Je vois votre nom, on le voit un peu dans d'autres villages aussi.
Oui, bien sûr, le nom Meyer, c'est le premier nom patronymique d'Alsace. Hein, il y a des Meyer partout dans notre village. Il y avait 8 ou 9 vignerons à un moment donné. Donc, il y en a qui ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de succession. Mais donc, il en reste toujours encore 3 dans notre village de 500 habitants, vous voyez. Donc, c'est une famille de vignerons, donc depuis 1761. Hein. Et alors, j'ai cherché l'origine de la famille, donc on vient de la Suisse. Après la guerre de 30 ans, beaucoup de villages ont disparu dans la région. Et c'est Louis XIV qui a commencé à repeupler un peu l'Alsace. Et donc, il a cherché des immigrés en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Et donc, ils se sont installés ici en 1761. Et depuis, donc, de père en fils, voilà. Et maintenant, de père en fille.
Donc, votre village, il a un nom assez compliqué à prononcer, voire à lire. Peut-être on peut le dire bien aujourd'hui.
Oui, donc, Feuchtlingshofen. Et en alsacien, Feuchtlingshofen. C'est beaucoup plus court en alsacien. Et Feuchtling, c'est comme Dupont-Durand, voilà, c'est le nom. Hofen, ça veut dire la ferme de... Et le nom a évolué depuis au XIIIe siècle. Hein. À un moment donné, c'était presque un nom hollandais, avec un V-O-C-E-L-S-V-O, Feuchtlingshofen. Hein, donc ça a évolué durant 5 siècles. Hein. Voilà.
Voilà, donc dans ce village, et beaucoup de villages d'Alsace, on est sur la route des grands vins d'Alsace ici, hein.
Oui, donc là, vous êtes sur la route des vins qui fait 120 km de long. Il y a à peu près 50 villages, hein, donc tous des villages. Et c'est des villages très compacts. C'est pas des villages, il n'y a pas de maisons en dehors des villages. Hein, c'est vraiment des villages regroupés. Et tous les 2 à 3 km, vous avez un autre village. Hein. C'est dire qu'à l'époque, bon, ils arrivaient à vivre de la vigne, mais également... Ils élevaient, bah, ils avaient des vaches, des cochons, ils faisaient un peu de la polyculture, un petit peu. Et la vigne leur servait pour avoir un appoint d'argent pour investir, quoi.
Donc on peut dire maintenant que la vigne, pour ces villages de la route des vins d'Alsace, hein, c'est vraiment une industrie complète. Enfin, il y a vraiment une économie très importante liée à ça et des familles qui y vivent. Globalement, ça se passe comment pour vos familles, hein?
Oui, donc c'est sûr que la viticulture utilise beaucoup de main-d'œuvre toute l'année, déjà pour les vendanges. Hein. Donc nous, personnellement, on a une vingtaine d'ouvriers qui viennent aux vendanges. On a également besoin d'aide toute l'année, donc il y a des prestataires de services qui viennent. Il y a beaucoup de monde qui tourne autour de la viticulture. Hein. Donc tu as les bouchonniers, les vendeurs de bouteilles, de cartons, donc c'est pas que les vignerons. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui tourne autour de cette économie. Hein. Ça fait travailler beaucoup de monde en Alsace.
Et les bouchons, tout ça, sont fabriqués dans la région ?
Non, ben les bouchons, malheureusement, on n'a pas de chaîne liège chez nous. Pour l'instant, travailler à 100% avec le Portugal, des bouchons portugais, un petit peu des bouchons français du Boulou, des Pyrénées. Et là, depuis 3-4 ans, mes filles ont décidé d'utiliser des bouchons bio, à base de canne à sucre, qui sont faits à base de canne à sucre. Hein. Donc, on a moins de risque de... Pas du tout de goût de bouchon, couleuse non plus. Donc, maintenant, on a à peu près 60% de notre production qui est bouchonnée avec ces bouchons-là. Quoi.
Donc, il y a une tradition des bouchons qui se perd peut-être maintenant ?
Pour l'instant, non. On vient d'investir dans une nouvelle machine de mise en bouteille. On a toujours gardé notre boucheuse parce qu'il y a beaucoup actuellement, surtout dans les pays nordiques, Angleterre, Suisse, Allemagne, des bouchons à vis. Mais pour moi, les bouchons à vis, ça fait comme si tu ouvrais une bouteille d'eau ou de coca, hein, pour pas faire plus ma coca. Et ça, moi, j'ai besoin du bruit du bouchon même si on n'a plus besoin de le sentir avec ces bouchons bio qu'on utilise maintenant, mais c'est toute une tradition qui doit perdurer pour l'instant, quoi, sauf si nos clients demandent à ce qu'on mette des capsules à vis, quoi.
Donc ces capsules à vis, est-ce que ça préserve bien les vins? Est-ce qu'ils peuvent vieillir comme les vins avec des vrais bouchons?
Bah non, je pense que c'est surtout des vins bas de gamme, bas de gamme Sylvaner et Delsvica, des vins à rotation rapide qu'il faut utiliser avec ces bouchons-là. Mais dès qu'on utilise des grands crus, des vins vraiment d'une certaine qualité, le bouchon est quand même encore très très fiable, même qu'il y a le risque de goût de bouchon, de couleuse également. Et en général, si vous voulez conserver des vins plus de 10 ans, il faudrait au bout de 10 ans changer le bouchon, quoi, pour ceux qui font une petite collection de vins. Mais voilà, donc autrement, c'est encore... c'est bien. Moi, je reste quand même fidèle au bouchon et pas à la vis pour l'instant.
Donc, ces grands vins d'Alsace, ces grands crus, on peut, selon les types, les garder en cave longtemps?
Les grands crus, nous, on a donc ici le grand cru Hadjbourg, son nom. Nous, on a arrêté d'en faire il y a 10 ans parce que nous, on aime bien, dans les grands crus, faire des vins secs. Et la commission qui donne l'agrément sur ces vins-là, eux, c'est plutôt des vins style vendange tardive, très sucrés, des Gewürztraminer à 40-50 grammes. Et moi, je juge que non, un grand cru doit avoir un restant de sucre entre 10 et 15 grammes. Et donc, on a eu plein de soucis avec l'agrément. Ils trouvaient que les vins n'étaient pas assez sucrés. Finalement, on a arrêté. Et actuellement, on vend nos grands crus sous expression de deux terroirs. On a rajouté un autre terroir, le Hagelberg, qui n'était pas grand cru, mais qui est situé juste à côté. Niveau qualité, c'est exactement la même chose. Donc actuellement, on continue à vendre tous nos grands crus sous expression de deux terroirs, sans l'appellation grand cru, bien sûr. Hein, on n'a pas le droit de... Mais niveau qualité, ça n'a rien changé. Au contraire, ça nous permet d'avoir un peu plus de volume pour attaquer les marchés... au niveau commercial, quoi.
Est-ce qu'on peut parler des différents types de cépages et leur typicité?
Oui, donc en Alsace, on a 7 cépages différents. Donc on a le Sylvaner et le Pinot Blanc, le Riesling qui sont des vins très secs. Ensuite, il y a le Muscat qui est très aromatique. Le Muscat chez nous, c'est le Muscat Autonel, c'est un tout petit raisin. Il existe aussi le Muscat d'Alsace en Alsace, mais nous, on n'en veut pas. C'est niveau qualité, ça ne ramène pas la finesse. C'est trop, trop expressif en odorat, quoi. Ensuite, il y a le Gewürztraminer, qui est bien sûr aussi très typé. Le Pinot Gris, qui est un vin qu'on connaît surtout depuis qu'on nous a interdit le mot Tokaj d'Alsace. Avant, ça s'appelait Tokaj d'Alsace. Et à un moment donné, c'était Tokaj Pinot Gris pour définitivement... enlever le mot Tokaj à cause des Hongrois qui ont rouspété. Eux, ils vendaient du cognac sous le nom cognac français, bien sûr, on leur a interdit. Donc, ils ont dit, on vous a interdit le mot Tokaj. Et ça nous a fait une pub immense et tout le monde veut du Tokaj maintenant. Donc, voilà, c'était dans l'absurde une bonne chose. Hein. Voilà.
Donc, les Tokaj hongrois, hein, ils sont un peu sucrés, ils sont assez amples en bouche, ils sont agréables. Hein. Est-ce que vous avez des équivalents?
Oui, donc moi je comparerais pas le Tokaj, notre Tokaj, enfin Pinot Gris d'Alsace, au Tokaj hongrois, parce que le Tokaj hongrois, on peut avoir des vins secs ou des vins très très doux, mais également, pour moi, c'est des vins qui ont un côté très surmaturé, couleur très jaune or, donc ça n'a plus rien à voir avec les vins typiques d'Alsace. Sauf, bon, si on va dans nos sélections de Grenoble ou Vendange Tardive, on a exactement l'équivalent, quoi.
Donc on peut dire que les vins d'Alsace, peut-être ce qui les caractérise, hein, tous ces cépages, hein, c'est peut-être leur fraîcheur d'une certaine manière.
Oui, la fraîcheur, donc le vin d'Alsace, pour moi, doit être un vin typique, goulayant, fruité, léger. Et de plus en plus, depuis 10 ans, il y a beaucoup de vignerons en Alsace qui commencent à faire des vins trop sucrés, trop, vous voyez. Et donc, on perd un peu cette typicité. Mais nous, on conserve cette typicité. Ça doit rester un vin de table avant tout. Hein. Si vous avez un Riesling avec 10-15 grammes de sucre, c'est vrai que c'est... on peut l'accompagner avec une sauce un peu spéciale avec des poissons cuisinés. Mais autrement, le Riesling doit rester un vin sec avant tout, quoi.
Donc c'est vrai que j'en ai gardé des Riesling pendant plus de 10 ans. Ils sont
Ouais.
restés très très bons, hein.
Oui. Bah, les Riesling, c'est des vins qui, en vieillissant après 4-5 ans, prennent un côté légèrement pétrolé ou pierre à fusil. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout, quoi. Et donc c'est le seul cépage qui, en vieillissant, prend ce côté minéral. Les autres cépages, Pinot Gris, Gewürztraminer, tout ça, vous pouvez les garder 10-15 ans, tout en couchant les bouteilles dans une cave bien tempérée, bien sûr, et en contrôlant les bouchons, hein, ça c'est évident. Parce que dès qu'il y a des couleuses, le vin s'oxyde très rapidement après, il faut éviter l'oxydation, quoi.
Donc sur la route des vins, Monsieur Denis Meyer, on a aussi de très jolis villages et vraiment c'est un charme assez exceptionnel de pouvoir venir voir ces villages qui sont très beaux, qui sont l'été particulièrement ensoleillés aussi. Hein, et le soleil, ça fait aussi la force des cépages, des vins d'Alsace.
Oui, exactement. Donc, le soleil, bien sûr, on a nos vignes qui sont exposées est. Donc, ça, c'est très, très bien pour la maturation des raisins. Et c'est vrai qu'en Alsace, on a mauvaise réputation en hiver. C'est la région, la Sibérie française. Bon, il y a des gelées, mais je veux dire, en été, on a des températures entre 30 et 40 degrés, hein. C'est même des fois un peu étouffant. Et pour la vigne, c'est très bien, quoi. Et comme on a des sols profonds, les racines des vignes descendent jusqu'à 18-20 mètres, donc on n'a pas besoin de trop d'eau pour la vigne. La vigne pousse très bien là où il n'y a pas d'excès d'eau. Et là, vous êtes dans la région entre Colmar et Ruffec, c'est une des régions les plus sèches de France. On a une moyenne de 450 mm d'eau, comme du côté de Nice et Cannes. Sauf que là-bas, ils ont l'eau en une semaine, alors que nous, c'est réparti quand même durant toute l'année, quoi. Et en hiver, un peu de neige dans les Vosges, ce qui permet d'approvisionner les nappes phréatiques et les nappes dans le vignoble, quoi.
Donc, il n'y a pas besoin d'arroser.
Bah, disons, on n'a pas besoin et de toute façon, c'est interdit. L'arrosage est interdit, c'est autorisé en Italie, dans le sud de la France, dans certaines régions, ou alors dans les nouveaux pays à vin, Chili, Californie, partout, avec du goutte à goutte. Chez nous, c'est interdit. Hein. Strictement interdit, on peut arroser que les vignes qu'on vient de planter, 1 an, 2 ans, mais dès qu'il y a du raisin, c'est interdit. Parce que ça fait, entre parenthèses, pisser la vigne. Donc ça donne trop de jus et un jus qui serait pas qualitatif, quoi.
Et depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous avez vu un changement du climat ici?
Bah, disons, au niveau, le climat a pas trop changé. Par contre, les dates des vendanges sont avancées à cause, déjà, premièrement, du crémant d'Alsace. Le crémant d'Alsace se vendange toujours 15 jours avant. Quand moi j'étais petit, enfin jeune plutôt, on vendangeait, on démarrait les vendanges tout début octobre, mi-octobre. Maintenant, c'est plutôt fin septembre, mais si on décale les 2 semaines de crémant, oui, il y a quand même eu une évolution au niveau climat, un petit peu, quoi. Hein? Mais est-ce que c'est dû, effectivement, à ce qu'ils disent, au réchauffement climatique? Moi, je pense que sur des millénaires, il y a toujours eu ce genre de. J'ai des livres qui parlent du vin du temps de Louis XIV. Ben, on vendangeait déjà le 15 août aussi. Vous voyez, donc, c'est des cycles qui, je pense, reviennent. Par contre, bon, le réchauffement climatique, la pollution peut-être changer un petit peu aussi la donne.
Donc dans ces villages d'Alsace typiques, hein, la pollution, on ne la ressent pas.
Ben non, la pollution, non, on ressent pas de. Et de plus en plus de vignerons, maintenant, depuis 30 ans, sont passés à un enherbement total des vignes, donc pas plus de désherbage chimique. Et notre village, c'est le seul village d'Alsace où on utilise les phéromones pour éviter de traiter insecticides, hein, depuis 25 ans déjà. Donc il n'y a plus d'insecticides du tout. Et autrement, donc on traite avec des produits cuivre, soufre, hein, des produits qui sont des produits phytosanitaires, bien sûr. Parce que souvent on dit que le bio ne traite pas. Si, c'est les gens qui traitent que en bio, ils traitent 2 fois plus que nous parce qu'ils utilisent des produits lessivables à l'eau. Dès qu'il pleut, il faut qu'ils retraitent. S'il pleut tous les 2 jours, ils sont obligés de retraiter. Alors que voilà, donc. On évite de faire des traitements avec un temps comme actuellement, 35-40 degrés du soleil. Là, on n'a pas besoin de traitement. C'est le soleil qui fait le travail, quoi.
Donc souvent, ce sur les bouteilles de vin, c'est marqué « contient des sulfites ». Pratiquement tous les vins, non, contiennent des sulfites.
Tous les vins en contiennent. Maintenant, il y a quelques vignerons en France qui commencent à faire des vins naturels, sans sulfites. Mais il faut dire que le vin, sans ajouter des sulfites, rien qu'avec la fermentation, les levures développent un tout petit peu de sulfites. Et sans sulfites, ben, le vin ne tient pas dans la durée. Ceux qui font des vins sans sulfite, ben, vous ouvrez la bouteille, en 10 minutes, le vin brunit. Et bon, il y aurait une autre solution, comme ce qu'ils utilisaient au Moyen-Âge, c'est d'utiliser de la noix de muscade, des clous de girofle, mais après, ça dénature tout à fait le vin, ça donne des goûts de vin chaud, si on veut, quoi. Donc ça, c'est pas non plus... Mais on l'utilise, on est limité en dose de sulfite, et donc on est largement en dessous des doses maximum autorisées, quoi. On évite maximum, mais un peu, il faut, pour la conservation des vins, quoi.
Voilà, donc quand vous faites une dégustation de vin, il y a un ordre dans, on va dire, les bouteilles que vous ouvrez?
Oui, effectivement, dans la dégustation, il faut toujours respecter, moi j'appelle ça l'échelle du ciel. On monte, on commence par les vins légers, Sylvaner Riesling, et ensuite on monte crescendo dans les vins un peu plus ronds, plus sucrés, plus fruités, pour finir avec des sélections de grains nobles ou les vendanges tardives qui sont très très riches en alcool et en sucre. Par contre, avant les vins blancs, on commence toujours la dégustation avec les crémants d'Alsace, les vins avec des bulles, et ensuite les rosés et les rouges avant d'attaquer les blancs. Parce qu'un vin rouge a beaucoup de tanins, donc il faut les utiliser, les boire au début, quoi, les déguster au début.
Donc quand on dit rouge, ils ne sont pas rouges comme certains vins, on va dire Bordeaux par exemple.
Oui, bien sûr, le Pinot Noir rouge, on appelle le rouge d'Alsace, c'est une vinification spéciale. On laisse macérer comme le Pinot Noir traditionnel dans des cuves pendant 8 jours, 10 jours. Et ensuite, le rouge d'Alsace est mis en petite barrique de chêne qui lui donne ses côtés boisés, vanillés en plus, quoi. Mais niveau couleur, on arrive de plus en plus à avoir des Pinot Noirs très très foncés. Mon père a démarré en 1969 avec son premier Pinot Noir, c'était un rosé. On n'arrivait pas à maîtriser la vinification des rouges à l'époque. Et de plus en plus de gens maintenant aimeraient qu'on revienne de nouveau sur ce style de rosé plus léger à boire, plus facile à boire.
Donc vous faites à la fois le rosé et le rouge dans le Pinot Noir.
Oui, donc en Pinot Noir, avec le cépage Pinot Noir, on fait trois qualités différentes. On fait le rosé, qui est un vin assez clair. Le Pinot Noir traditionnel qu'on boit frais. Et ensuite le rouge d'Alsace, c'est le seul vin d'Alsace qu'on boit chambré.
Eh bien, merci Monsieur Meyer pour cette présentation complète et au plaisir de cette dégustation.
Voilà, très bien. J'espère que vous passerez de bons moments en Alsace et puis n'hésitez pas à goûter toute notre panoplie de vins qui est unique en France avec tous les cépages et tous les terroirs qu'on a. Donc, il y a de quoi faire.